Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, entreprendre en Afrique pour les jeunes diplômés avec bien sûr les conseils du coach. Bonjour Didier Akwete.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Président du cabinet Afrique Search, société de conseil en ressources humaines. Vous écoutez, vous conseillez les jeunes qui se lancent. Dans quelques instants, je vous présente un voisin de 28 ans qui utilise le potentiel du cuir au Tchad. Et il a beaucoup de questions intéressantes à vous poser pour réussir son défi. Pour participer à l'émission et dialoguer avec le coach, je vous rappelle, les voisins et les voisines, notre compte WhatsApp, c'est très simple, vous nous envoyez un message, vous nous expliquez comment vous entreprenez, quel est l'objet de votre entreprise au 33 7 64 45 51 41. En deuxième partie d'émission, comment fabriquer des champions, c'est-à-dire des PME en pleine croissance, aptes à devenir des groupes, à s'inscrire dans la concurrence mondiale, à développer le continent africain et surtout, je dirais, à devenir des champions qui donne envie aux jeunes talents de faire partie de l'aventure de l'excellence et de l'innovation. Une innovation, bien sûr, adaptée aux besoins du continent. Alors, quels sont les meilleurs alliés pour fabriquer des champions? Des banques, des politiques publiques efficaces, des coachs, des bailleurs de fonds? On va en discuter avec une entrepreneuse rwandaise qui est de passage à Paris dans le studio des 8 milliards. Bonjour Maryse Mbonyumutwa.
Bonjour Emmanuel, merci beaucoup de me recevoir.
Et merci à vous d'être chez nous, chez 8 milliards de voisins à Paris. Vous êtes la cofondatrice de l'entreprise textile rwandaise Pink Mango. En 5 ans, vous avez monté 4 usines avec un partenaire chinois qui emploie 5000 personnes. Aujourd'hui, c'est la plus grosse entreprise textile du Rwanda qui exporte. Vous avez créé la marque aussi Asanti qui réunit différents designers du continent. Et vous nous direz comment vous avez pu passer à une échelle industrielle alors que la création textile est encore assez artisanale en Afrique et que l'Asie règne en maître dans ce domaine. On sera aussi en ligne avec Eliman Han. Oui, on a demandé à un ancien sportif de haut niveau. Je suis sûre que ça va vous amuser, Didier Akwete.
À l'approche des JO.
Athlétisme, en plus. Voilà, un gars qui court très très vite. Il est devenu entrepreneur, Eliman Han. Il a créé une entreprise au Mali de compléments alimentaires à base de plantes locales. Il se développe dans 7 pays du continent et on en discutera avec lui. Mais tout de suite, les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent, vous nous appelez pour dialoguer avec le coach. 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
L'Afrique regorge de talents, vous le dites très souvent Didier Akwete, encore faut-il exploser le plafond de verre des difficultés qui pèsent sur toutes les têtes des chefs d'entreprise en Afrique. On accueille un jeune patron de l'Afrique qui gagne, Ozia Bebe, 28 ans, N'Djamena au Tchad. Bonjour Ozia.
Bonjour Emmanuel.
Eh bien, on est ravis de vous accueillir dans le studio des 8 milliards de voisins. Vous êtes N'Djamena. Alors, je vais juste dire un petit mot sur votre parcours pour qu'on arrive au plus vite à votre activité et que vous puissiez poser vos questions. Alors, vous avez deux coachs aujourd'hui. Hein. Vous avez Didier Akwete et une entrepreneuse rwandaise qui est également avec nous, Maryse Mbonyumutwa. Ozia, après votre bac, vous êtes partie faire vos études supérieures au Bénin. Licence professionnelle en système industriel à l'Université africaine de technologie et de management, c'est l'UATM qui est une université privée à Cotonou. De retour au pays, vous avez créé en 2020 Baladi Chaussures, donc vous aviez 24 ans. Baladi en arabe tchadien, ça signifie quoi?
Baladi veut dire mon pays. Donc, Baladi chaussures pour dire les chaussures de mon pays.
Voilà, bah c'est explicite. Hein. Ce sont des chaussures made in Tchad. Aujourd'hui, c'est une entreprise formelle qui est déclarée au registre du commerce de fabrication de chaussures sur mesure, haut de gamme, de création, de réparation aussi, cordonnerie haut de gamme. Pourquoi vous vous êtes dirigé vers les chaussures après une licence professionnelle en système industriel?
Alors, merci pour l'invitation. L'idée de Baladi Chaussures est née à Cotonou, quand j'y étais dans le cadre des études supérieures. Moi, je m'imaginais au départ un parcours plus ou moins classique, c'est-à-dire avoir un meilleur diplôme, retourner au pays, postuler pour en fait décrocher un emploi.
De fonctionnaire.
Mais les réalités du terrain.
Vous rêviez de décrocher un emploi de fonctionnaire au départ, Ozia, ou pas ? Dites-nous tout.
Non, peu importe.
Non. Ah bon,
que
d'accord.
Ça soit dans le secteur privé ou public.
D'accord.
Mais avoir quand même un emploi.
Oui.
Alors, les réalités du terrain, pour dire l'environnement béninois très attaché à l'entrepreneuriat et quelques événements marquants du pays ont en quelque sorte transformé mes aspirations. Primo, pour ne citer que la crise économique qui sévissait le pays entre 2015 et 2017, tous les Tchadiens qui nous écoutent savent mieux de quoi je parle quand je dis 16 mesures. Ce qui a conduit à une situation financière très dégradée et l'accès à l'emploi pour les jeunes diplômés de l'époque était presque impossible. Il fallait donc pour moi de travailler pour joindre les deux bouts. Secondo, j'ai fait une découverte mais éblouissante du métier de chausseur haut de gamme, ce qui n'existait pas au Tchad. Je me dis, tiens, voilà une idée à développer. Parce qu'au Tchad, quand même, nous avons un cheptel important et de la main-d'œuvre disponible. J'apprends alors auprès d'un professionnel béninois. Après 5 ans, je retourne au pays avec la volonté de créer de la richesse à partir des ressources locales.
Mmh. Voilà. Je précise que quand vous avez commencé auprès de ce professionnel au Bénin, vous avez déjà commencé déjà avec une notion de business parce que vous touchiez un pourcentage sur toutes les chaussures que vous parveniez à vendre au Tchad. Ensuite, vous ouvrez votre entreprise en pleine pandémie, si je puis dire, en 2020, donc votre entreprise de chaussures haut de gamme. Vous avez été formé, je passe rapidement, vous avez été formé par un chausseur italien qui était venu dans le cadre d'un projet de soutien au savoir-faire tchadien à N'Djamena. Le Tchad, vous l'avez dit, c'est un pays d'éleveurs avec une exportation de bétail, mais surtout une production de peaux brutes. Ce sont des peaux qui sont exportées essentiellement vers le Nigeria. Où en est cette filière à l'heure actuelle ? Est-ce que vous parvenez à travailler des peaux qui sont directement tannées au Tchad ?
Justement, c'est un peu ça le problème. Actuellement, ce que Baladi Chaussures fait, c'est pour montrer le potentiel tchadien, pour inciter aussi d'autres personnes à réfléchir sur la peau. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore une tannerie qui puisse traiter la peau pour nous permettre de fabriquer des chaussures de haut de gamme.
Mais alors d'où viennent vos peaux ?
Nous sommes obligés.
D'où viennent les cuirs ?
Traités ailleurs.
Et d'où viennent les cuirs alors ?
Les cuirs proviennent même du Tchad, mais on les fait tanner au Nigeria.
Donc les cuirs proviennent du Tchad, ils sont tannés au Nigeria et reviennent chez vous pour être transformés en chaussures haut de gamme.
Exactement.
Ouais. Didier Akouété, ça vous inspire quoi ?
Non, mais ce sont les grands paradoxes qu'on a sur le continent.
Parce qu'en une phrase, il a tout dit, là.
Comme le cacao, vous le produisez, il est transformé dans les usines en Europe et vous le mangez en chocolat. C'est les grands paradoxes de l'industrialisation africaine qui est un petit peu en panne pour l'instant.
Alors, vous avez une capacité de production annuelle de 1000 paires de chaussures. Ce sont des très beaux modèles, des peaux de grande qualité, des très belles finitions. Vous fabriquez peu, mais vous vendez cher. Votre entreprise est à l'équilibre. Vous faites travailler une dizaine de jeunes et vous avez plusieurs questions importantes à poser au coach Didier Akouété, mais également notre entrepreneuse rwandaise pourra vous répondre puisqu'elle travaille dans le textile, qu'elle a monté une usine importante de textile, Maryse Bo-Nyum-Moutoua.
C'est ça.
On vous écoute,
comme
Ozia.
Vous savez, nous sommes une jeune entreprise qui essayons de promouvoir le savoir-faire local. Ma première question, c'est que quand on gagne de l'argent, on a un choix à faire entre investir dans le matériel qui nous manque, la communication et l'amélioration de tout ce qui est lié au prestige de la marque, c'est-à-dire les boîtes à chaussures, la boutique, etc. Alors, à quoi faut-il donner priorité ?
Et vous avez une autre question également. On est en train de noter toutes vos questions.
Aussi, les clients apprécient beaucoup les chaussures que nous faisons. Mais on n'a pas assez de main-d'œuvre ni d'argent pour se développer. Donc, on perd souvent des commandes. Est-ce qu'il faut que j'ouvre mon capital? Et si oui, comment? La dernière question que j'ai, si vous me le permettez, je suis obligé de former tous mes ouvriers au métier et à mes exigences de qualité. Mais l'entreprise a du mal à couvrir les charges liées à cette formation. Comment y faire face?
Bon, ça fait beaucoup de questions, mais des questions essentielles, des questions de formation de main-d'œuvre, des questions d'ouverture de capital pour pouvoir acquérir du nouveau matériel, et puis aussi une question plus générale, dans quoi investir, puisque l'entreprise est à l'équilibre, elle peut réinvestir au fur et à mesure, mais dans quoi tellement pour se développer, il faut investir partout, la communication, l'image, le packaging, la formation, ou donner de la tête pour Rosia, qui a trouvé de toute évidence un secteur, un filon, il répond à une demande, il y a des clients, il n'a pas de problème pour trouver des clients, mais il a des problèmes pour répondre à la demande. Didier, ouais. À côté.
Non mais en tout cas, bonjour Ozias, vous vous posez des questions bonjour. Que tout entrepreneur se pose, surtout lorsqu'on est dans la production. Ouais. Alors, vous avez pris un positionnement, c'est vrai qu'il n'est pas simple, c'est du sur-mesure et du haut de gamme. Et Marie, tout à l'heure, pourra en parler par rapport à son industrie du textile. Et le sur-mesure, ça veut dire que c'est un marché de niche que vous avez pris pour l'instant. Alors après, en Afrique, vous savez, le sur-mesure, on dit tout le monde fait du sur-mesure. Allez, si le coordonné vous fait du sur-mesure, sauf que c'est du sur-mesure de base. Or, vous êtes sur un positionnement haut de gamme. Alors, vous avez déjà une chance, c'est que vous êtes dans un pays où vous avez la matière première qui est abondante. Et c'est vrai, le Tchad est connu pour être un des gros producteurs de peau, de cuir, mais qui n'est pas traité malheureusement, et que les gens, comme ce qu'Ozia nous explique. Donc, vous avez déjà que c'est la matière première. Par rapport à votre première question, si vous avez pris un segment qui est un segment haut de gamme, du sur-mesure, vous êtes obligé de faire de la qualité. Il n'y a que la qualité qui vous permettra de rester dans ce positionnement que vous avez choisi. Sauf si vous voulez devenir un producteur MeToo, des chaussures moyenne gamme pour tout le monde, pourquoi pas, mais le segment que vous avez choisi vous oblige à investir sérieusement et massivement dans l'équipement pour produire des chaussures de qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les marchés haut de gamme, vous avez parlé de marketing, de packaging, bien sûr, c'est important, mais c'est la qualité de votre produit qui rassure d'abord les consommateurs et le marché, qui vont permettre à votre marché de se développer. Donc, priorité, équipement, qualité de votre produit et de votre livrable. Il ne faut pas que vous lésinez là-dessus, sinon vous allez perdre votre positionnement. Donc ça, la première question, c'est la qualité de votre produit qui va faire la différence. La deuxième question, évidemment, vous êtes confronté à un problème de ressources, comme toute entreprise et comme toute PME. Et vous avez vu, vous êtes confronté à plein de problématiques en même temps. Vous êtes obligé aujourd'hui, c'est vrai, de chercher du capital, donc des fonds propres à renforcer. Donc, il faut ouvrir le capital. Alors, vous êtes probablement trop jeune. Quand j'ai vu vos chiffres, les chiffres sont un peu trop petits pour intéresser du private equity, un investisseur qui vient en capital prendre une participation. Sauf si vous avez une courbe de croissance qui est exponentielle. Là, il peut se dire, je viens assez tôt pour vous accompagner et donc je peux prendre une part de votre capital. Mais attention, quand vous êtes petit, vous risquez d'être complètement dilué. Et donc là aussi, mais c'est un autre sujet, la négociation que vous aurez avec un investisseur sera différente. Sinon, aujourd'hui, quand je vois la taille du business, il va prendre 95, sinon 98%. Vous n'aurez plus rien à ce stade. Donc ça, c'est une négociation. Donc, pour répondre plus précisément à la question, aujourd'hui, vous êtes obligé de faire appel à un peu de capital risque. C'est un capital risqueur qui peut venir à ce stade parce que la banque, les chiffres que j'ai ne sont pas très encourageants pour une banque et les taux que une banque va vous faire vont être très élevés pour une entreprise qui est encore, même si vous avez 4 ans d'existence, vous êtes encore en phase de balbutiement. Donc, la banque, c'est pas la solution idéale. Peut-être la mésofinance, mais c'est relativement coûteux. Comme taux, et donc c'est un venture capital, exactement, voire même plus. Donc c'est un capital risqueur qui va venir chez vous et qui va accepter de vous accompagner en mettant un peu d'argent, mais en négociant bien votre participation capitale.
Pour rester majoritaire, sous-entendu.
Enfin, il, à mon avis, ne va pas rester majoritaire vu que son truc est balbutiant et est en train de développer son business. Ça m'étonnerait, vous êtes jeune, même si vous avez de la formation, mais un capital risqueur va vouloir prendre la majorité pour contrôler le business et vous obligez, vous, à être un peu peut-être dans la dimension créative, dans la dimension suivi qualité, parce que vous n'avez pas de billes, mais vous avez un savoir-faire qu'il peut valoriser, que vous pouvez valoriser en fait dans le business. La troisième question, évidemment, c'est très important. Vous êtes sur un marché de niche, je l'ai dit au début, et vous faites de la qualité. Et donc, l'importance d'avoir des ressources humaines extrêmement qualifiées est indispensable. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller chercher de l'assistance technique, des fonds d'assistance technique qui existent auprès des bailleurs de fonds, auprès des banques de développement, auprès de quelques organisations qui financent les PME, qui financent les start-up, qui vont vous donner peut-être 20, 30, 40, 50 000 dollars pour vous appuyer sur un an, deux ans, trois ans pour former vos ressources humaines. Une fois que j'ai dit ça, vous êtes confronté à un autre problème. C'est que comme vous êtes petit, vous êtes dans une industrie qui va croître, les gens que vous allez former risquent de partir une fois qu'ils sont formés. Et donc, comment est-ce que vous arrivez à les fidéliser pour que vous ne perdiez pas le bénéfice de ces formations pour des jeunes qui ont envie de déboucher aussi, qui vont peut-être aller faire la même chose que vous d'ailleurs, parce qu'une fois qu'ils sont formés, qu'ils voient que le savoir-faire n'est pas si compliqué que ça, ils vont être vos concurrents de demain. Donc, pensez, lorsque vous aurez formé ces ressources humaines à votre business, à voir comment les fidéliser et les faire rester chez vous.
Ozia, vous aviez bénéficié déjà pour vous-même d'assistance technique. C'est comme ça que vous avez pu être formé d'ailleurs à la chaussure haut de gamme.
Oui, bien sûr.
Et vous avez cherché d'autres types d'assistance technique justement pour vous aider à former du personnel ?
Oui, j'en cherche toujours. Mais jusque-là, à part cette assistance que j'ai bénéficié de Codepa, je suis allé au Maroc renforcer mes capacités. Donc, c'est jusqu'aujourd'hui, avec l'italien et au Maroc, ce sont les deux assistances techniques que j'ai eues.
Oui, vous avez été formé au modélisme de chaussures à Rabat. Et donc là, votre formation était financée, c'est bien ça, notamment par le ministère de l'Artisanat tchadien, je crois.
Non, Codepa, c'est un comité de coordination pour le développement de l'artisanat africain. D'accord. Donc ça réunit beaucoup de pays.
Mais le Tchad a depuis plusieurs années une réflexion tout de même sur le développement de la filière cuir. Est-ce que vous ne pouvez pas vous insérer dans cette réflexion? Vous avez été un tout petit peu médiatisé au moment où vous avez lancé votre entreprise. Vous vendez des chaussures haut de gamme, donc vous vendez probablement des chaussures à des acteurs politiques ou économiques importants de la place. Est-ce que ce carnet d'adresses ne peut pas vous aider? Comment vous êtes perçu, Ozia?
Et c'est même ça le problème. Au Tchad, on peut avoir tout ce potentiel, mais pas forcément se faire aider. Donc, nous, jeunes entrepreneurs tchadiens, on ne compte pas forcément sur l'appui, l'aide de l'État, parce qu'on sait comment les choses se passent ici. Donc, on est plutôt ouvert à des particuliers et aussi, pourquoi pas, les banques pour nous aider à nous développer. On attend, au Tchad, on attend que vous atteigniez un certain niveau avant qu'on ne puisse vous faire confiance. C'est par ça. Exemple, moi, dans mon domaine, je peux bien travailler pour ne pas, pourquoi pas fournir des chaussures à des institutions publiques.
Bien sûr.
Oui, on comprend bien le problème. Comment vous voyez le développement de cette entreprise, Maryse Bognoumoutois? Parce qu'on a l'impression qu'il a trouvé une filière qui est porteuse d'espoir, Ozia. Et pourtant, il semble un peu coincé de toutes parts. Manque d'accès au financement, manque d'accès à une forme de carnet d'adresses et de réseau pour pouvoir grandir, manque de personnel. Et en même temps, il n'a pas de problème pour trouver des clients.
Oui, ce qui en génère le nerf de la guerre après l'argent, mais il a la chance d'avoir des clients. Ça, c'est déjà un bon départ. Et comme le thème de l'émission est comment créer des champions,
Là, c'est surtout comment aider déjà un jeune entrepreneur. Hein. Après, on va parler bien sûr des champions avec votre usine.
Mais c'est le champion de demain. Ouais. Le champion de demain si l'écosystème s'y attelle bien. Moi, je vois, je pense que. Et ça permettra peut-être de faire un lien avec donc, la deuxième partie de l'émission, c'est une question d'information. Donc à la fois, il faut que l'écosystème qui doit pouvoir accompagner et créer des champions soit au courant, connaissent ces jeunes, où sont ces jeunes, où sont ces futurs champions. Et de l'autre côté, ces jeunes comme Osia et d'autres, aussi avoir accès à l'information comme ils demandent. Voilà.
Mais on a l'impression, Didier Acoté, qu'Osia, finalement, il n'a pas encore atteint la taille critique pour exploser le plafond de verre et se lancer véritablement, alors que son entreprise est à l'équilibre. Hein. On est bien d'accord, Osia, votre entreprise, elle est à l'équilibre. Pour l'instant, vous gagnez un peu d'argent, vous n'êtes pas déficitaire.
Bien sûr.
Ça semble paradoxal.
Non, mais c'est une réalité mondiale, si vous voulez. Osia est dans la situation du jeune entrepreneur qui a besoin d'être accompagné. C'est pour ça que ça existe des incubateurs, ça existe des centres de développement des entreprises, ça existe des accélérateurs pour lui permettre d'accélérer son business parce qu'il est confronté à la fameuse vallée de la mort dont on parle souvent, très tôt déjà aujourd'hui. Et c'est là où il doit avoir de l'expertise, de l'accompagnement financier et des marchés. Et donc, s'il n'y a pas des structures qui font ça, comme on le voit dans des pays normands, excusez-moi le terme, Osia va jamais décoller. Ou il va décoller, mais tellement tardivement qu'entre-temps, son business sera peut-être déjà mort. Ou alors, il finira par délocaliser son business.
Alors, justement.
C'est-à-dire aller dans un pays où il y a un centre de production avec des infrastructures qui vont l'accueillir. Lui, il va se concentrer sur la création et les autres vont produire, ouvrir des marchés, l'accompagner.
Osia, justement, ça sera le mot de la fin. Hein, mais je sais que vous cherchez à créer deux unités de production à Moundou et à Abéché. Moundou, capitale économique du Tchad, des grandes villes qui ont de la matière première et de la main d'œuvre. Vous mettez beaucoup d'espoir dans ces délocalisations à l'intérieur de votre propre pays.
Oui, bien sûr. J'ai l'impression qu'à seul, je ne me fais pas beaucoup écouter. Alors, mon objectif de délocaliser, mais faire l'extension sur ces deux villes, vont permettre de plus être présent sur la scène et espérer ses commandes, ce marché.
Voilà, écoutez, Baladi Chaussures, si des partenaires sont intéressés, vous nous appelez, vous passez par 8 milliards de voisins, on vous souhaite bonne chance. Osia sont des chaussures de très haute qualité, haut de gamme, et on espère que vous allez pouvoir trouver plus de main-d'œuvre, mieux formée, et puis surtout, à terme, il faudrait que les peaux soient directement tannées, bien sûr, au Tchad, pour éviter des surplus de frais quand elles sont tannées au Nigeria. Merci beaucoup à vous d'être en ligne, d'avoir été en ligne chez 8 milliards de voisins. Les voisins, les voisines, si vous écoutez cette émission, si vous êtes jeune diplômé, si vous lancez votre entreprise, ou bien si vous êtes déjà en phase d'expansion d'ailleurs, vous pouvez nous appeler pour poser vos questions au coach au 33 7 64 45 51 41. N'oubliez pas que vous devez expliquer clairement votre entreprise, votre plan d'affaires, et on vous donne la parole dans la prochaine émission. Dans quelques instants, on passe à la vitesse supérieure. Très intéressant aussi, comment fabriquer des champions sur le continent. Ce sera juste après l'Ivoirien Fjord Björk qui fait claquer sa langue fleurie de Nouchi pour un vrai bon rap freestyle jersey. I'm crazy. Hey, about JT Balabu. To Garabati Tabaku is a man crazy. Monte Asi, I go on Jersey. Hey, la petite fille m'a pris pour Jersey. Quand elle a vu ma Lambo, elle m'a pris pour un Yango. Y'a dit non, chéri Coco, y'a dit le frère de Sissoko. Bon petit débat Congo, c'est mon vieux qui est Big Togo. J'ai comme Parachi Congo, y'a dit Pata, y'a dit Zango. La petite fille m'a pris pour Jersey. Pourtant elle a parti d'Asie d'Agoro Poesi. Les hommes ont la queue sans maman Oji. Y'a dit n'y a pas, y'a dit Calais, y'a dit Poesi.
samale tangwe basangoroke da tangwe paraka vroke matango sangroke bereke matango semo yekrele matango esa mambroke ni tango esa ampelele tibango tambereke mande tibango petite fille m'a pris pour Jésus pourtant elle a parti d'Azitago Jésus. Et sa maman la de sa maman Odi. Et si n'y en est pour y'a si calé y'a si poésie. Petit, tu es petit, mon petit, tu es petit. Petit, tu es petit, mon petit, tu es petit. Petit, tu es petit, mon petit, tu es petit. Petit, tu es petit, mon petit, tu es petit. Ton petit, c'est mon petit. Si c'est ton petit, c'est que c'est mon petit. Ton petit, c'est mon petit. Si c'est ton petit, c'est que c'est mon petit.
8 milliards de voisins sur RFI. Entreprendre en Afrique aujourd'hui. On aborde la deuxième partie de l'émission avec des chefs d'entreprise expérimentés qui éclairent notre débat avec leur parcours, leurs expériences. Aujourd'hui, comment fabriquer des champions dans le domaine des PME? On est toujours avec vous, Didier Akwete d'Afrique Search. Également, une entrepreneuse rwandaise, Marie Mbonyu Mutwa. Vous êtes de passage à Paris et vous avez monté l'entreprise textile Pink Mingo qui a monté plusieurs usines. En 5 ans, vous allez nous expliquer aussi comment vous voyez ce concept de champion sur le continent africain. Et puis également, on a contacté un ancien sportif de haut niveau, hein, Eliman Han, bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel.
Merci d'être en ligne. Merci d'être en ligne avec nous. On compte sur votre expérience d'ancien sportif et devenu entrepreneur. Vous pouvez nous redire juste un petit mot sur votre palmarès en haut niveau athlétisme en France?
Bon, alors, donc j'étais champion d'Europe en 2011 avec l'équipe de France d'athlétisme au relais 4x400.
Oui.
À Paris, à Bercy.
Ouais.
Et ensuite, j'ai été 3 fois finaliste au championnat du monde, plusieurs fois médaillé au championnat d'Europe, championnat de France et olympien à Rio en 2016.
Waouh! Et ben voilà, un entrepreneur qui court vite, très très vite. Vous avez monté une entreprise de compléments alimentaires à base de plantes locales. Au Mali, au départ, hein, vous vous développez dans plusieurs pays du continent africain. Et bien sûr, on va en parler de cette notion de champion, de votre entreprise, de comment vous voyez les choses aussi avec le sport de très haut niveau. Mais déjà, Didier Akwete, c'est un enjeu qui vous tient particulièrement à cœur, cette notion de champion, puisque vous avez fondé le Africa SME Champions Forum, qui se déroule tous les ans dans un pays différent d'Afrique anglophone ou francophone. Vous vous inspirez pas mal de l'Asie pour définir ce qu'est un champion.
Oui. Alors, vous savez, Emmanuel, lorsque nous avons commencé avec les amis, et notamment Paulo Gomez, à sillonner les routes d'Asie, on a compris quelque chose assez vite. C'est que le développement économique et les champions locaux ne se fabriquent pas par hasard. Et c'est pour ça qu'on a créé la Chambre de commerce à Singapour, Afrique-Asie, pour nous inspirer des bonnes pratiques. Et Singapour est un exemple extrêmement intéressant parce que quand vous avez des entreprises comme DBS, Singtel dans les télécoms, Singapore Airlines, c'était des politiques délibérées de l'État de fabriquer des champions nationaux qui deviendraient des champions régionaux et mondiaux avec des politiques d'appui financier, parce que fabriquer un champion, ça demande des ressources. Et donc, délibérément, l'État met en place des politiques d'appui au niveau financier, des politiques d'accompagnement public, tout ce qui est tax incentive, des politiques parfois de fermeture des marchés pour permettre à ces entreprises d'acquérir du savoir-faire, de se développer. Et je le dis souvent, si vous mettez un garçon de 10 ans face à un enfant de 6 mois et de leur dire de courir sur 20 mètres, la réponse est vite trouvée. Celui qui a 10 ans arrivera toujours plus vite. Et donc, Quand vous êtes sur des marchés où vous laissez la porte ouverte à des champions internationaux qui viennent inonder vos marchés de produits alors que vous n'êtes pas encore en capacité de produire, d'avoir une vraie capacité de développement commercial et industriel, vous ne gagnerez jamais. Et donc, c'est un ensemble d'instruments qui sont mis en place et qui favorisent l'émergence de ces champions nationaux qui deviennent champions régionaux. Alors, on commence à le voir un petit peu. Dans certains pays, on a mis en place des politiques d'accompagnement, soi-disant, de champions nationaux. Finalement, ceux qui en bénéficient ne sont pas les vrais entrepreneurs. On va donner un peu de marché, d'accès facilité, à plutôt des politiques qui sont également dans le secteur, mais qui ne sont pas du tout des entrepreneurs. Et l'exemple le plus réussi, pour l'instant, c'est quand même le Nigeria. Il faut le signer quand Bassanyoté au pouvoir. Et bah, les fameux Dangote que vous voyez aujourd'hui, des grandes banques que vous voyez aujourd'hui, ont été favorisés par une politique nationale visant à l'émergence de ces champions. L'Afrique du Sud a essayé un petit peu avec le Black Economic Empire, mais ça a été un échec pour l'instant, parce que les entrepreneurs n'ont pas complètement joué le jeu, même si l'esprit n'était pas mauvais au début. Donc, la fabrication de champions, ce sont des politiques publiques délibérées qui favorise l'éclosion de ces entreprises. Et si on ne le fait pas, il n'y aura pas de développement économique parce que, d'abord, l'emploi se crée localement par des entreprises locales qui paient des impôts, qui ne délocalisent pas leurs machines quand ça ne va pas, mais qui restent sur le territoire et favorisent l'éclosion d'un tissu économique avec ces PME dont vous parlez. C'est pour ça qu'on a créé le Africa SME Champions Forum également en 2014. Parce que quand vous créez des champions, vous partez d'abord de petites entreprises qui deviennent des PME et qui deviennent des entreprises moyennes et des grandes entreprises. Et ensuite, vous mettez ces PME dans le sillon de ces grandes entreprises qui vont leur fournir des services, qui vont leur fournir de la sous-traitance, etc. Et donc, c'est encore un appel pour que nos pays comprennent que ce sont des politiques délibérées, comme on a pu le voir aussi avec les Samsung en Corée.
Bien sûr, on va y revenir sur ces politiques publiques, mais pour qu'il y ait des politiques publiques, il faut déjà qu'il y ait des candidats entrepreneurs et des entrepreneuses de talent. Oui, je vous vois lever les yeux au ciel, Didier. Il y en a plein sur le continent africain.
L'Afrique
je sais
est
bien.
Une terre d'entrepreneurs.
D'accord, mais je voudrais qu'on comprenne avec votre expérience, Maryse Bonnioumoutois. Vous êtes chef d'entreprise au Rwanda dans le secteur du textile. Vous avez travaillé avec la Chine lors de vos expériences précédentes en trading de textile. Est-ce que pour vous, c'est l'Asie qui définit la notion de champion, pour vous aussi?
Alors, oui, la définition peut partir de l'Asie, mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis embarquée dans un combat où je préconise qu'il faut que l'Afrique trouve ses formules. Voilà, alors on peut s'inspirer des autres, mais il est vraiment impératif qu'on trouve nos propres formules. Et pour parler de Pink Mango, ce dont Didier vient de parler, je confirme à 400%. Et je vais prendre l'exemple de l'industrie textile au Rwanda. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2012, la communauté des États d'Afrique de l'Est, East African Community, avait décidé de revitaliser, de relancer son industrie textile, qui était quand même fort menacée par l'importation de la seconde main. Donc l'East African Community, la communauté des États d'Afrique de l'Est, a décidé d'augmenter les droits d'importation des friperies, effectivement pour relancer l'industrie. Malheureusement, les lobbyistes américains, principalement de la friperie, des vêtements de seconde main, ont fait pression sur leur gouvernement, qui lui aussi a rétorqué en menaçant d'augmenter les droits d'importation sur le textile qui venait de ces pays-là. Donc la plupart des pays se sont retirés, sauf le Rwanda qui a tenu tête et s'est engagé dans cette voie-là. Et pour relancer l'industrie, ils ont augmenté les droits d'importation sur le textile, les vêtements de seconde main, supprimer les droits d'importation sur les matières premières. Ensuite, il y a eu une très très forte campagne pour encourager les gens à non seulement produire du Made in Rwanda, mais également portée du Made in Rwanda.
C'est ce qui vous a permis de vous lancer à ce moment-là, de vous associer avec un partenaire chinois pour monter des usines. Vous avez tout de suite vu assez grand quand même, parce qu'en 5 ans, vous montez 4 usines de 5000 personnes, à peu près.
Mais il y a un passé, donc ça faisait quand même 25 ans. Moi, ça fait à peu près 25 ans que je suis dans l'industrie. Donc j'avais déjà des clients, mais comme l'interlocuteur précédent, quand on a déjà le marché, c'est beaucoup plus facile. Donc j'avais des clients, parce que moi j'ai une société de trading en Europe, mais qui travaillait déjà pour quelques grands groupes, mais en produisant leurs marchandises en Asie, principalement en Chine, mais dans d'autres pays de l'Asie du Sud-Est. Donc c'est vrai que la passerelle de leur recommander de produire en Afrique au lieu de l'Asie était beaucoup plus facile que de recréer un marché à zéro.
Eliman, Anne, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous, est-ce que quand on écoute Didier, Maryse, on a l'impression que tout passe par finalement les politiques publiques, essentiellement les politiques de fiscalité, hein, que ce soit pour les droits d'entrée, pour la fiscalité aussi à l'intérieur de ce qui est produit sur le marché. Est-ce que pour vous aussi, quand vous avez monté votre entreprise de compléments alimentaires qui se développe dans plusieurs pays du continent, vos difficultés était relié à une absence de politique publique.
Pas tout à fait, pas tout à fait, parce que nous, on s'est vraiment concentré sur la fabrication et la qualité de nos produits. Donc justement, en arrivant sur le continent africain, moi, je savais un peu que à ce niveau-là, il allait avoir des difficultés, qu'on n'allait pas être forcément soutenu par le système. Donc du coup, nous, on s'est vraiment concentré à fabriquer des produits de qualité, à convaincre les clients à acheter nos produits. Donc c'est ça vraiment qui a été le plus important pour nous. On ne s'est pas demandé qu'est-ce que le système peut vraiment nous apporter. Nous, on s'est dit, bon, on va vraiment s'adapter à la réalité du continent africain.
Ouais. Ça veut dire que vous n'attendiez pas d'accompagnement pour former du personnel, pour obtenir des machines de fabrication pour votre laboratoire, etc. Vous n'attendiez rien de l'État au Mali à l'époque?
Non, pas du tout, parce que quand on est arrivé, on a eu de la chance d'être accompagné par l'IEP.
Un fonds d'investissement français qui investit dans des entreprises, des PME africaines.
Emmanuel, personne n'attend rien des États, honnêtement, dans nos pays. Hein. Les entrepreneurs commencent à avoir leurs projets, nonobstant ce que l'État peut offrir comme assistance, garantie, financement. Simplement qu'à un moment donné, lorsque vous commencez... Parce que l'entrepreneur, déjà, moi, je dis, c'est un héros. Quelqu'un qui prend ses billes, qui... Non, mais c'est vrai, qui quitte son job, qui prend ses économies, qui dort pas jour et nuit. Déjà, le point de départ, c'est extrêmement important pour un entrepreneur. Lorsque vous démarrez une activité, que vous avez souffert autant... C'est pas à vous d'aller chercher l'État. C'est un État, justement, lui, son job, c'est d'identifier sur son territoire des acteurs qui créent de la richesse, qui créent de la croissance, qui créent des emplois, pour aller justement les soutenir. Eliman n'a pas attendu l'État, Maryse n'a pas attendu l'État. Maryse a saisi l'opportunité d'un contexte économique et politique qui dit nous allons fabriquer localement et donc nous prenons une décision. Donc elle saisit cette opportunité. Et dans un second temps, donc, l'État aussi, en voyant que Maryse est en train de faire du bon job.
Justement, vous avez visité
l'usine de Maryse.
Qu'est-ce que ça vous inspire sur la notion de champion?
Alors, moi, j'ai été impressionné par ce que j'ai vu à Kigali, l'usine de Maryse. Et c'est sans flagornerie. Elle est dans les standards internationaux. Elle a positionné son entreprise aux standards des grosses entreprises internationales. Et maintenant, le défi, c'est le défi de la croissance et donc de l'investissement massif, parce que sur un marché comme celui-là, vous rigolez pas, vous avez des gros acteurs mondiaux qui sont d'abord, qui fabriquent, qui sont en Asie, qui sont parfois sur des territoires en Afrique et qui aussi sont des gros industriels avec des gros financements. Et elle va en parler beaucoup mieux que moi, quand elle produit pour des distributeurs qui ont des exigences en termes de qualité de produit, de délai, et ben vous jouez pas, vous êtes dans la cour des grands. Et c'est là où justement, quand les pays veulent soutenir des champions locaux, parce qu'ils sont dans des contextes de compétition internationale, on met beaucoup de moyens pour leur permettre d'être également au même niveau de compétition que les autres.
Alors on a bien compris, la notion de champion sur le continent africain, c'est d'abord de s'inscrire dans une compétition internationale. Mais comment vous, Maryse Bognou-Moutois, avec votre usine de textile, il se trouve que depuis vous êtes séparée du partenaire chinois, mais il vous reste quand même une usine de 1500 personnes, hein. C'est pas rien. Comment vous faites? Vous exportez? Qu'est-ce que vous fabriquez exactement? Et surtout, comment vous vous situez sur ce marché international? Quand on dit usine textile au Rwanda, on n'a pas l'impression que demain, vous allez inonder le marché avec des jeans ou des t-shirts.
Mais oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je suis à Paris pour le salon Apparel Sourcing à Texworld, porte de Versailles, et qui est dominé à 70 ou peut-être 80% par des fabricants chinois. Donc c'est vrai qu'hier, on s'est rendu compte, là, on est vraiment dans la concurrence mondiale. Mais bon, enfin, il faut des pionniers, il faut y arriver. C'est vrai que l'Afrique, c'est la... C'est la dernière, la dernière frontière pour développer.
Quel est votre créneau pour exister et pour croître?
Et pour croître. Alors donc créneau pour exister et pour croître, il a fallu y réfléchir vraiment de façon stratégique. Premièrement, on s'est positionné sur un produit qui n'est principalement que produit en Chine, donc la veste, les pièces à manches, donc doudoune, veste matelassée, on fait même des vestes de ski. Donc ces produits aujourd'hui sont produits principalement en Chine à 90%, et sinon la prochaine, les autres pays, c'est le Bangladesh et c'est le Myanmar. Donc on a aussi profité d'une réalité géopolitique aujourd'hui. Beaucoup de grands groupes, après le Covid, veulent diversifier leur source d'approvisionnement. Le Myanmar étant la deuxième source, avec les problèmes politiques, beaucoup se sont retirés. Donc voilà, il y avait une opportunité de trouver...
Un tout petit espace laissé vide,
une niche
dans lequel vous vous êtes engouffré. Je voudrais, juste très rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que la politique publique du Rwanda vous a concrètement apporté pour vous déployer, en quelques mots, rapidement?
En quelques mots. Donc voilà, le projet était très clair. On avait un projet qui pouvait créer 10 000 emplois sur 5 ans, participer à l'amélioration de la balance commerciale du pays. Donc on avait des arguments quand même à présenter au gouvernement. Donc là, en 6 mois, ce qui est très bien au Rwanda, c'est que c'est un gouvernement très... On m'a demandé de pas utiliser les mots anglais, mais business-oriented, orienté business. Et en quelques mois, on a réussi à négocier un contrat qui incluait des subsides et qui nous permettait d'être aussi compétitifs que si nous étions situés au Kenya ou en Tanzanie, près d'un port. Donc aujourd'hui, le gouvernement...
Sur le plan de la fiscalité, vous voulez dire ?
Sur le plan de la fiscalité. Donc c'est de la fiscalité et d'autres avantages pour nous permettre de travailler. Donc aujourd'hui, l'accord, c'est pour chaque 1000 emplois qui va être créé, le gouvernement met à disposition pendant 5 ans un local, une usine.
Vous avez 6000 mètres carrés, hein,
voilà, c'est ça ? Voilà, 6000 mètres carrés pour 1000 pour ouvriers. Ensuite, on a une participation aux frais de transport, donc ça aussi pour réduire, parce que la contrainte logistique du Rwanda ne permettait pas d'être aussi compétitif que si nous étions situés dans un autre pays. Ensuite, il y a des aides à la formation. Également, en partenariat avec des institutions de développement dans le pays.
Ce qui veut dire que former votre personnel ne vous coûte pas trop cher, du coup.
Ça reste quand même très cher, parce qu'effectivement, ce qui est reçu comme aide n'est pas du tout proportionnel aux besoins. Par contre, c'est déjà un début. Et alors, pour les produits locaux, le Rwanda a mis en place une politique de préférence nationale. Donc, pour les marchés locaux, nous avons un avantage. Nous pouvons être 10 à 15% moins cher que des produits... plus cher que des produits importés. Voilà. Donc, les institutions locales sont encouragées à d'abord acheter chez nous, faire produire chez nous, avant d'importer des produits qui peuvent être produits localement.
Vous avez eu des prêts bancaires ?
Des prêts bancaires également, la Banque rwandaise de développement. La Banque rwandaise de développement avec effectivement des produits spéciaux pour des entreprises qui visent l'exportation.
Eliman Han, il nous reste très très peu de temps. Où est-ce que vous en êtes ? Vous êtes une entreprise plus petite, bien sûr, de production de compléments alimentaires. Qu'est-ce que votre mental de champion que vous avez conservé, ancien champion d'Europe en athlétisme, qu'est-ce que ça vous a apporté pour continuer malgré les difficultés? Vous avez démarré votre entreprise au Mali, maintenant vous développez dans d'autres pays parce que le Sahel est dans une situation compliquée. Comment vous faites pour rester sur la ligne?
Mais en tant que sportif, déjà, c'est très difficile pour nous de lâcher. Donc ça, c'est pas, c'est du tout pas possible. Donc on est toujours à la recherche des solutions, de trouver des alternatives aux problématiques. Et effectivement, depuis 2 ans maintenant, on commence à redistribuer dans les pays de la sous-région. Parce qu'au début, on distribuait sur 7 pays. Après, parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens pour produire par nos propres moyens. Donc du coup, on a dû se retirer de tous ces pays-là pour se concentrer sur le Mali, pour bien maîtriser notre production et ensuite recommencer à distribuer en Afrique de l'Ouest.
Ça sera le mot de la fin, je suis désolée. Cette discussion est trop courte pour parler d'un si gros sujet.
Toujours bien trop courte.
Qui Emmanuel. Vous tient à cœur, comment fabriquer des champions sur le continent africain. Merci à vous tous, Didier Akwété, merci Maryse Bognoumoutois, merci Eliman Han.
Oui, j'allais finir en disant qu'il y a heureusement quelques champions africains. Hein, quand vous voyez les MTN, les NCA, les Dangote.
Et demain, il y en aura d'autres.
Voilà, les Sifka, c'est quand même encourageant. C'est des grandes entreprises. Et donc, ça encourage l'entrepreneuriat africain à se dire on a quand même des champions africains aujourd'hui sur le continent.
Merci à vous tous. Dans quelques instants, Afrique Midi, ça sera juste après une sélection de la playlist RFI, Fresh Banger et Singa Far Away.
Carry me to live my ima, me better life for day. Make money rain and shower for you. And I be say I no go look another woman, but baby if neighbor, I'm far away from you. When I am coming home, I don't know. I've been gone for so long, searching for long, lost in this world. My addiction, my intention, meditation, my levitation. All the late nights, all the spotlights. Should I come back? Can I decide? All the loved ones I left behind. Gonna bring you blessings in no time. International, international. Global, all my no be that sauna. Say I want gonna, or two gonna. Make it all go to me, but I won't gonna. Make you all go this guy.
L'émission de demain sur RFI, 8 milliards de voisins, la polygamie, comment les femmes en parlent de la vie intime au sommet de l'État. Vous nous appelez les voisines au 33 7 64 45 51 41. À demain.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.